Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 24 avril alors que avance la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe cette année. On a eu droit à du très bon hockey jusqu'à présent dans les 8 diverses séries qui se déroulent. On va bien évidemment parler de ça aujourd'hui à l'émission. Une émission qui va être peut-être un peu plus courte qu'on a l'habitude, c'est ce que j'essaie de dire. Parce que on va parler aujourd'hui, Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage vont être avec moi. Ils viennent tout juste d'arriver de Washington, couvrent la série. Donc on va être plus en mode canadien aujourd'hui plutôt que de parler de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Ça, on va se garder ça pour lundi. On devrait avoir un autre épisode, donc comme je vous disais la semaine dernière, en séries éliminatoires, des balados, honnêtement, on en fait quand on peut, quand on a un peu de temps libre entre... écoute, les gars, même souvenez-vous, pendant la confrontation des Quatre Nations, on fait ça pendant qui attendait à l'aéroport, avait trouvé un petit coin calme, on a fait ça à l'aéroport, donc ça va être la réalité pour Jean-François et Guillaume dans les prochaines semaines. Donc quand on peut vous pondre un petit balado comme aujourd'hui, express, ben c'est ce qu'on fait. Donc si vous voulez attendre, savoir un peu ce qui se passe avec les autres séries, allez sur le site de LNH.com. Présentement, là, des textes, je peux vous dire, les collègues, moi aussi, là, on travaille comme des malades pour vous donner un maximum de textes, pour vous fournir le plus d'informations sur ce qui se passe en série. Comme ce matin, on peut lire un peu ce qui s'est passé. Le retour de Gabriel Landeskog avec l'Avalanche du Colorado. Beau moment, très beau moment hier. Retour après 3 saisons sans jouer, Landeskog. Est-ce que ça va donner un impact à cette équipe-là? L'Avalanche, on pensait que l'Avalanche, à ce moment-ci de la série, allait avoir une bonne avance. Du moins, elle allait avoir l'avance parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'éclopés chez les Stars. Miro Heiskanen n'est pas là. Jason Robertson n'est pas là non plus. Mais c'est les Stars qui mènent après 3 matchs. 2 victoires en prolongation. Hier, c'est un but de Tyler Seguin en prolongation qui a donné cette victoire-là. Je joue du très bon hockey. C'est une super bonne série. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus ce qui se passe. Même chose ce soir, bataille de l'Ontario qui se poursuit. Honnêtement, les Maple Leafs, je les trouve très, très, très impressionnants depuis le début des séries éliminatoires. Tu sens qu'Ottawa, il manque un peu d'expérience. Il y en a qui tentent de brasser la soupe, mais quand les gros canons de Toronto se mettent à l'œuvre, c'est là que tu vois qu'il y a du talent. Toronto, on s'est souvent dit, le problème avec cette équipe-là, c'est mental, hein, c'est dans la tête. Mais jusqu'à présent, on mène la série 2-0. C'est la première fois depuis 2002 que les Maple Leafs prennent une avance de 2-0 dans une série. Est-ce qu'il y a un effet Craig Berube qui est en train de se passer du côté de Toronto? On le sait, Chief, de son surnom, c'était un joueur. Allez voir les vidéos sur YouTube, qui aimait bien donner quelques tapoches ici et là en bon français, ou quelques baffes pour les gens qui nous écoutent. Je salue tout le monde qui nous écoute du côté de l'Europe. Mais comme coach, c'est un entraîneur qui est très demandant, puis c'est peut-être ça que ça prenait, la petite dose supplémentaire d'intensité qu'il n'y avait pas sous Sheldon Keefe. Écoutez, si ça opère, si enfin ça clique mentalement pour Toronto, ben les Sénateurs, ça pourrait être court. Puis on verra jusqu'où les Torontois peuvent aller en séries éliminatoires. Mais ça, bon, à ce moment-ci, si vous nous écoutez avant le match, parfait. Si vous nous écoutez après le match, vous avez peut-être une réponse encore plus évidente. Puis dans les autres séries qui sont intéressantes, qu'on suit de près, là, ça va bien pour les Jets de Winnipeg. Ça va pas mal moins bien pour les Oilers d'Edmonton. Écoutez, les Oilers finalistes de la Coupe cette année, l'année dernière. On se demande s'ils vont réellement pouvoir gagner un match contre les Kings de Los Angeles. 12 buts accordés par les Kings. Marqués par les Kings dans cette série-là. Oui, les Oilers sont venus dans le match dans le premier. Victoire de 6-5 sur un but avec une balle papillon de Philippe Dano. Mais hier, défaite sans appel des Oilers 6-2. Donc, ça va pas très bien pour les Oilers. Puis, à moins que McDavid et Draisaitl parviennent à faire des petits miracles, j'ai beaucoup de doutes que les Oilers vont pouvoir revenir. Un Adrian Kempe, présentement 7 points en 2 matchs. Tu sais, Kempe, c'est un bon joueur, mais là, de le voir s'élever à ce niveau-là, les Kings, honnêtement, les Kings, là, sont intéressants. Peut-être, je ne sais pas, si on les sous-estimait. On terminait devant les Oilers. Techniquement, ce qui se passe, on terminait devant les Oilers, mais est-ce que les Kings peuvent aller jouer dans la tête de d'autres équipes plus tard si on parvient à avancer? Ça va être à suivre tout ça avec dans les prochaines semaines des séries éliminatoires. Donc, comme je vous disais, Suivez-nous les réseaux sociaux. Là, on est partout, lnh.com, lnh sur Facebook, lnh de barre de soulignement, fr sur X sur Instagram. On est sur Blue Sky aussi, lnh-fr, Thread aussi. Bon, suivez-nous partout parce que là, présentement, du contenu de séries éliminatoires, on en a à la tonne. Et pour ce qui est des balados, ben, peu importe où vous nous écoutez, suivez-nous, comme ça vous êtes certain de ne jamais manquer le moindre épisode. Mais bon, on revient à ce que je vous dis, on revient à nos moutons ici à Montréal, alors que les Canadiens de Montréal tirent de l'arrière 2-0 dans la série contre les Capitals de Washington. La série qui se déplace à Montréal vendredi et dimanche. On le sait, c'est quoi du hockey de série à Montréal? C'est toujours le cirque, la folie, le brouhaha dans le Centre Bell, mais aussi à l'extérieur. Je pense que les partisans auraient aimé ça si ça avait été peut-être 1-1 dans la série, mais bon, si on veut revivre à Montréal un autre printemps à Lac, faut tirer de l'arrière 3-1 dans la série. Donc, il y a de l'espoir, c'est loin d'être terminé pour le tricolore. On va le savoir demain comment ça va se diriger. Bien évidemment, c'est un match que le tricolore ne peut pas vraiment perdre demain contre les Capitals. Alors, pour discuter de tout ça avec moi, je les accueille, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Et Jean-François Chaumont, salut, JF.
Bonjour, messieurs.
Messieurs, fraîchement sortis du labyrinthe qui est Yule, l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, anciennement Dorval. Merci d'être là. Comme je disais tout juste avant de vous ajouter au balado, on va avoir un petit balado peut-être plus express aujourd'hui. Vous étiez à la couverture des deux matchs à Washington. Deux matchs qui vont avoir été serrés. Mais on commence à voir lentement, mais sûrement, du moins on l'a vu dans ces deux matchs-là, qu'il manque peut-être quelques petites munitions tricolores pour rivaliser jusqu'à présent.
Oui, c'est François Gagnon, je pense, qui avait comme expression hier après le match, si près et si loin.
Ouais.
C'est le cas. Défaite de 3-2 en prolongation, défaite de 3-1 où les Caps marquent un but dans un filet désert. Donc, grosso modo, oui, le CH tient tête à la grosse machine des Capitals de Washington. Mais il y a trop de moments d'égarement aussi, trop de moments où le CH est perdu dans son territoire, multiplie les revirements. C'était le cas en première période pour le premier match. Ça a été le cas en deuxième période pour le deuxième match. Et chaque fois, le CH rebondit avec de bonnes troisième périodes. Au dernier match, Logan Thompson a joué les héros avec quelques gros arrêts. C'est probablement lui qui a fait la différence, mais malgré tout, là, c'est un retard de 2-0 dans cette série. Puis tu commences à voir aussi un manque de profondeur. Le CH essaie de se battre avec grosso modo deux trios. Puis le deuxième trio, c'est celui des vieux, Dvorak, Anderson et Gallagher. Pour le reste des six autres attaquants, c'est très mince et les Caps sont le dessus avec des gars d'expérience au centre comme Lars Eller et Nick Dowd sur les troisième et quatrième unités.
Tu en as parlé un peu, ces moments d'égarement-là, là. Est-ce que c'est de l'expérience? Est-ce que c'est du talent? Est-ce que c'est le talent qui est en face qui réussit à t'endormir? Est-ce qu'on a été capable, chez le tricolore, d'expliquer pourquoi, dans ces deux matchs-là, on a joué, grosso modo, 30 minutes environ, 35 minutes?
C'est difficile à expliquer, à vraiment mettre le doigt sur ce qui cloche défensivement. C'est certain qu'il y a certains individus par moment, personnellement, je pense qu'ils sont ils semblent un peu déconnectés de ce qui se passe sur la patinoire. Mike Matheson, ça n'a pas été deux matchs faciles pour lui. David Savard non plus, un temps de jeu assez limité. On se demande s'il n'y aurait pas un petit bobo dans son cas ou simplement la fatigue accumulée tout au long de la saison. Puis après ça, t'avais quand même au début de la série 3 défenseurs sur 6 qui n'avaient pas d'expérience en séries éliminatoires contre la pesante machine des Capitals de Washington qui, dès le premier match, a appliqué de la pression, s'est mis à frapper tout ce qui bougeait. Hier, dans le match, il y a une séquence, on a vu Lane Hutson laisser passer Tom Wilson devant lui pour aller chercher la rondelle dans le coin de la patinoire. C'est pas quelque chose qu'on avait vu pendant la saison de la part d'Hutson qui habituellement se sert un peu de son intelligence pour se sortir de ces situations-là. Hier, a laissé passer Tom Wilson. Fait que c'est peut-être le signe que on commence déjà à être tanné de se faire frapper par les gros bonhommes des Capitals du côté de la défensive des Canadiens. Puis ça, c'est certain qu'à certains moments, ben ça peut changer ta façon de jouer. Ça peut changer la décision que tu vas prendre dans telle ou telle situation parce que tu veux pas te faire frapper, parce que tu veux éviter le coup d'épaule. Fait que je pense qu'il y a tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que les Capitals ont vraiment donné le ton dans les deux premiers matchs. Ils se sont mis à envoyer des messages rapidement au premier affrontement là, avec plusieurs bonnes mises en échec. Mais c'est aux Canadiens d'exploiter ça parce que hier on a quand même vu à certains moments les Capitals chercher la grosse mise en échec justement, mais se sortir du jeu aussi. Puis le Canadien n'a pas été en mesure d'en profiter nécessairement. Donc, tu sais, ça... Oui, l'avantage est aux Capitals en ce moment, puis on a très bien joué en échec avant et tout ça, mais je pense qu'il y a des choses à faire quand même du côté du Canadien pour trouver des solutions là, dans les prochains matchs.
Mais Nick, tu demandais, est-ce qu'il y a de l'inexpérience? Il n'y a aucun doute que oui, il y a de l'inexpérience. Et Kaden Gooley était le premier à le dire là, à quelques heures du deuxième match. Il disait, bon, mais c'était un premier match pour moi et mon partenaire, Lane Hudson. Les deux, on découvrait la réalité des séries. Puis Gooley disait, ça semblait assez clair, une des stratégies des Caps, c'était de cibler Lane Hudson. Dès qu'ils avaient la chance, ils voulaient le frapper.
C'était sûr.
Malgré, c'était sûr. Oui, mais ça c'était écrit dans le ciel.
C'est ça. Si tu sors Lane Hudson du jeu, tu n'as plus de relance, ça va vite, là.
Mais malgré ça, Lane Hudson, après deux matchs, quatre fois, il a été frappé. C'est Alexandre Carrier qui s'est fait frapper le plus souvent, 14 fois. Kaden Gooley, 9 fois. C'est l'ADN des Caps, ils ont de gros attaquants. Ovechkin, dans le deuxième match, il a été tranquille offensivement, mais Ovechkin a continué de frapper, a continué de s'imposer physiquement. Tom Wilson, on le connaît, pas besoin de le définir, c'est son rôle. Il y a Pierre-Luc Dubois aussi, mais après ça, tu as Ryan Leonard, qui est un jeune rempli d'énergie, qui est fatigant. Sur chacun des trios, tu as des éléments qui sont menaçants physiquement. Sur le quatrième trio, Brandon Duhem, qui est un bon ailier, assez marteau comme style, c'est en ligne droite, puis il va venir frapper les défenseurs du CH. Mais hier aussi, on dirait que le tricolore a réussi à mieux gérer l'échec avant des Caps, mais il y a eu un gros moment d'étourdissement de 60 secondes en deuxième période où plus rien fonctionnait. Les couvertures défensives, un peu tout le monde perdait son homme. Résultat, deux buts en 60 secondes. C'est là que le match a viré. Puis hier soir, sur la passerelle à Washington, Guillaume puis moi, on se regardait, puis on se disait, bon, mais après deux minutes, sans dire mission accomplie, le CH avait un bon départ. C'était déjà mieux qu'au premier match. Patrick Laine pose ses patins sur la glace. Je donne un coup de coude à Guillaume en disant, oh, oh, c'est peut-être là que le trouble commence. C'est effectivement là que le trouble a commencé. Mauvaise présence de Laine, qui est incapable de soutenir quoi que ce soit, qui joue avec mollesse. Alex Newhook aussi, pour les deux premières périodes, c'était très difficile pour Alex Newhook. Donc, si tu ne peux pas miser sur un troisième puis un quatrième trio, si chaque fois l'entraîneur a les mains liées puis veut protéger Laine à tout prix, il ne peut pas l'envoyer pour une mise en jeu en zone défensive. Là, c'est pratiquement rendu, il ne peut pas l'envoyer pour une mise en jeu en zone neutre parce que tu es trop loin, trop près de ton territoire. Donc, tu deviens limité. Je crois que c'est vraiment à cet endroit-là que les Caps, même si les deux matchs sont très serrés, les Caps ont l'avantage.
Quand on regarde dans la situation, on est en train de se placer chez les Canadiens où on surtaxe en plus notre premier trio, nos deux premiers trios. L'offensive doit venir d'eux. Puis je veux dire, ça apparaît en... Les Canadiens ont très bien joué en troisième période. Ça aurait été l'affaire de un but ici ou là. Ouais. Et on en a manqué beaucoup des occasions de marquer. Oui, Thompson a été solide, mais même si on regarde le premier match aussi, on a souvent cogné à la porte. Ça aurait pris juste un but pour lancer le momentum puis tout ça. Mais je veux dire, il y a deux matchs de jouer dans la série, puis déjà, on commence à surtaxer nos meilleurs éléments. Ça, c'est un boomerang qui pourrait revenir rapidement, là. Surtout contre une équipe aussi physique que les Capitals. Je veux dire, là, à un moment donné, là, les bobos, ça va commencer un puis un puis un. Surtout si on se doit, encore une fois, d'utiliser seulement 6 joueurs à l'attaque dans le prochain match.
Puis on parlait déjà de d'une équipe qui a joué deux mois de série avant d'amorcer cette série-là, hein? Contre les Capitals de Washington. C'était certain que les meilleurs éléments allaient être surtaxés parce que la décision de Kent Hughes à la date limite des transactions, ça a été le statu quo. On n'a pas fait l'acquisition de joueurs de profondeur, de gros bonhommes peut-être pour venir aider ce noyau-là en série. Puis je pense que c'est là qu'on voit la différence. Les Capitals sont allés chercher un Anthony Beauvillier qui est là en l'absence d'Alexis Protas, joue sur le premier trio, joue du très, très bon hockey. Du côté du Canadien, on a gardé l'équipe intacte, le noyau intact, en se disant on va prendre la chance. Puis là, c'est finalement arrivé, mais je pense qu'on voit les limites aussi d'une équipe qui s'est croisé les doigts à la date limite des transactions en espérant que ça fonctionne pour les séries éliminatoires. Cela dit, ben, t'as parlé de Thompson, les Capitals, eux aussi connaissent des bas dans cette série-là. C'est une équipe qui monte beaucoup de montagne russe, qui joue en montagne russe depuis le début de la série. C'est une bonne période pour une mauvaise. Les deux troisièmes périodes ont été catastrophiques pour les Capitals. Donc, le Canadien est capable d'imposer son rythme. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour le faire pendant 60 minutes. C'est certain que ça doit être absolument drainant là, pour les gros éléments de cette équipe-là de soutenir ce rythme de jeu-là avec le nombre de minutes qu'on leur demande de jouer. Mais c'est quand même encourageant de voir que le Canadien est capable de, malgré tout, de tenir tête à cette équipe-là. Puis on ne l'a pas nommé depuis le début du podcast, mais Samuel Montembeau a un grand, grand mot à dire dans le fait que le Canadien est capable de tenir son bout dans la série jusqu'à maintenant.
Ouais, moi, je voulais justement partir sur le terrain de Montembeau aussi. Montembeau, pour les deux matchs, a permis au CH de rester dans le coup. Jamais les Capitals sont parvenus à s'échapper parce que Montembeau réussissait les gros arrêts. Il est confiant, il est solide devant son filet. Il reste le Samuel Montembeau qu'on croise tous les jours. Pas nerveux, même s'il vit lui aussi ses premiers moments en série. Donc ça, c'est peut-être encourageant. L'autre aspect que tu parlais, Nick, est-ce que Martin Saint-Louis presse trop le citron avec les gros canons? On peut le comprendre, par contre, il y a plus ou moins de ressources à sa disposition. Hier, en troisième période, Nick Suzuki, c'est 9 minutes de temps de jeu. Slavkovski, c'est 9 minutes. Lane Hudson, c'est 9 minutes 48 secondes. Caulfield dépassait les 8 minutes. Donc, grosso modo, une présence sur deux, il sautait sur la patinoire. Ça peut devenir drainant, ça peut devenir taxant. Puis après deux matchs, c'est 3 buts pour l'offensive du CH. Hier soir, après la rencontre, là, Juraj Slafkovský, Guillaume le connaît bien aussi, là, mais Slafkovský a tendance à être très critique envers lui-même après une défaite. C'était une de ces soirées où Slafkovský était complètement débiné, là, pratiquement les yeux dans l'eau, un petit peu inquiet par rapport à ce qui se passe dans cette série, en disant « si on corrige quelque chose, mais c'est un autre endroit que ça craque, il faut vraiment comme arriver à trouver des solutions rapidement ». Puis il prenait le blâme aussi parce qu'à ses yeux, la production offensive du premier trio est insuffisante depuis le début de cette série. C'est le cas, mais c'est pas mal la solution magique pour les Caps. Si tu réussis à éteindre le trio de Suzuki, les chances de gagner restent très, très élevées du côté de Washington.
Tu parlais, tu avais ta feuille de temps de jeu, JF. Peux-tu me dire le temps de jeu de Patrick Laine en troisième période, s'il te plaît?
C'est assez facile à calculer. 0.00. Servi de poteau au banc entre les défenseurs et les attaquants.
Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour pour le troisième match, peu importe, pour Martin Saint-Louis, de carrément le laisser sur le banc? Surtout qu'il avait jasé là, dans l'entraînement dans l'entraînement matinal. T'sais, il a passé son message parce que la performance de l'aîné pendant le premier match, c'était un fantôme.
Puis là, pendant le premier match, il y a eu quelques moments. On l'a quand même vu. On doit être honnête. Là, il y a eu quelques bons tirs. Thompson, je me souviens d'un arrêt de la jambière contre l'aîné. Mais plus le match avançait, plus ça ralentissait. Puis au deuxième match, bien, ça a été une comédie d'erreur. Puis l'aîné, honnêtement, a creusé sa tombe, puis je crois que c'est une réaction normale d'un entraîneur de l'asseoir au banc en troisième période.
Tu fais quoi? Vous faites quoi pour le prochain match?
Mais je pense que Martin... Vas-y, Guillaume, vas-y.
Bon, pour moi, c'est... Je pense qu'on est rendu au point où Patrick Laine, en début de saison, oui, ça n'a jamais été le joueur ultra efficace à 5 contre 5, le joueur à qui on pouvait faire confiance, mais il compensait par début en avantage numérique. C'est son rôle principal. C'est là où il est efficace. depuis le début de cette série-là, en avantage numérique, c'est aussi difficile qu'à 5 contre 5. Dès qu'il touche à la rondelle sur le jeu de puissance, t'as l'impression que tout le monde devient nerveux parce que va faire des... va virer vers la ligne bleue, va danser un peu sur la ligne bleue, puis c'est un gars qui a pas les... Il n'a pas les capacités de faire ça. En tout cas, il les a peut-être déjà eu, mais en ce moment, ça ne fonctionne pas.
Il était blessé au genou, blessure importante en début de saison. Je ne sais pas encore là. Mais il danse un peu moins bien qu'il a déjà dansé. Là, dans...
Non, c'est ça. Le coup de patin, c'est absolument. Ça saute aux yeux. Là. C'est plus vraiment à niveau. Donc, pour moi, si ce joueur-là n'est plus capable de remplir son rôle en avantage numérique, qui était de marquer des buts. Tu sais, il y a eu des occasions, là, puis depuis le début de la série, c'est des tirs qui ratent la cible, c'est des tirs... Ça n'a pas la même puissance peut-être qu'auparavant. Tu sais, on n'a pas vu un tir frappé dans la lucarne comme il faisait en début de saison. Fait qu'à partir du moment où il n'est pas utile en avantage numérique... Puis que l'avantage numérique ne fonctionne pas en ce moment. Il y a eu un but au premier match, là, mais hier, ça a généré à peu près rien. Ça a plus donné d'occasions de marquer aux Capitals. Je me pose la question, à quoi Patrick Laine sert dans cette équipe-là? Donc, pour moi, c'est assez clair que... Il faut envoyer un message. Là, on discutait tantôt à l'aéroport avec les gars de TVA Sport. Je sais que Maxime Lapierre et Antoine Roussel ont fait une petite montée de lait dans l'entracte hier. Pour dire que pour le reste de l'équipe, ça doit être frustrant de regarder ça. Là, tu sais, un Gallagher, un Anderson qui ont la pédale au plancher dans cette série-là, de voir un Laine qui a l'air de se traîner les patins, qui n'a pas l'air de prendre ça à cœur nécessairement, mais ça peut avoir un impact sur le reste du groupe. Donc, pour moi, je pense que la décision est assez claire au troisième match. C'est certain que ça va faire du bruit. On est à Montréal, on est en série, la loupe est sur l'équipe, mais... Je pense qu'on est rendu au point où il faut le laisser de côté puis trouver des solutions ailleurs.
Surtout, on parle d'avantage numérique. Depuis deux matchs, il y en a eu quatre au total pour le tricolore. Ouais. C'est du hockey de série. Les sifflets sont rangés pas mal plus souvent qu'en saison. Donc, ça aussi, on perd des points d'efficacité là, pour l'aîné. Là.
Puis, on n'a pas parlé de blessure dans le cas de l'aîné. On n'a jamais dit clairement qu'il l'était. Mais. Du haut de la passerelle de presse, on est plusieurs à se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à une main? Il ne semble pas avoir la même vélocité, la même puissance quand il vient le temps de décocher un tir.
C'est pas sa grippe qui est revenue?
Non, je pense pas. Mais lui, c'était une vilaine grippe, faut pas l'oublier.
Une vilaine grippe, c'est vrai.
Puis, je me souviens d'une citation de Martin Saint-Louis avant le début de... Je me souviens pas si c'est avant le début de la série ou quand Ivan Demidov fait son arrivée à Montréal, on lui avait demandé comment tu gères aussi l'aspect peut-être susceptibilité de certains vétérans. Parce que Demidov pourrait prendre des minutes en supériorité numérique à un vétéran. Puis Saint-Louis avait dit, bien écoute, je vais coacher pour gagner, puis c'est moi qui ai le marteau entre les mains. Donc c'est moi qui décide de l'utilisation des joueurs. Peu importe le nom dans le dos, on est justement à cette étape-là. Je crois que Saint-Louis, s'il veut être cohérent avec ses décisions, de la façon que Laine a joué, le prochain match, les chances de voir Laine sur la passerelle de presse, à mes yeux, restent très élevées. Puis ça pourrait permettre aussi d'essayer la fameuse carte Ivan Demidov sur la première vague en supériorité numérique. Si tu ajoutes Demidov à Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Hudson, ça amène un aspect encore plus de dynamisme, plus de créativité que Laine. Laine, si son tir ne fonctionne pas, c'est bonsoir. Il reste en même place, il ne bouge pas, il attend la passe. Puis s'il y a la rondelle, tu souhaites qu'il la redonne le plus rapidement possible. Il ne faut pas qu'il ait la rondelle trop longtemps sur son bâton, sur sa palette. Donc, j'ai hâte de voir. Puis les options, si tu choisis de rester conservateur puis d'y aller d'une formation à 12-6, je crois qu'Oliver Kapanen peut être le choix, même si un confrère que je nommerai pas, qui était assis à ma gauche, poussait pour Michael Pezzetta. Je crois pas que ça va arriver, Pezzetta.
L'autre... J'aimerais préciser que j'étais à la droite de Jean-François.
Oui, exact. Guillaume était à ma droite. Et l'autre alternative, c'est peut-être d'y aller d'une stratégie John Cooper, 11 attaquants, 7 défenseurs. À ce moment-là, tu peux probablement donner une tape à Herbert Jacquet puis dire « Vas-y, c'est à ton tour ». Puis Jacquet, dans un rôle où il y a 7 défenseurs, bien, tu peux lui donner 6-7 minutes puis ça fait pas trop mal non plus. Pour amener
ça aiderait, intimidant. Ça aiderait peut-être David Savard qui
s'en
m'en arrachait un peu. C'est ça, tu sais. Je pense que au niveau logique, c'est ça, mais c'est sûr que ça implique de tu retranches l'aîné, ben c'est un gros message. Ça va être gros, ça va faire jaser, c'est des distractions. Puis à partir du moment où tu le laisses de côté pour le match numéro 3 qui est. Pour répéter encore que c'est le match le plus important de la saison. Après, est-ce que tu peux faire marche arrière au match 4, au match 5, au match 6 si tu trouves que tu as besoin de plus de munitions offensives? La question se pose. Est-ce que l'ANA va bien réagir à ça? Est-ce que le club veut poursuivre l'association pour l'an prochain? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans cette décision-là, mais... Au niveau strictement hockey, là, sur le plan hockey, Patrick Laine n'apporte absolument rien dans cette série-là. Puis, avec tout ce qu'on a dit sur l'aspect robustesse, sur le fait que le Canadien se fait brasser, je pense qu'à 11-7, tu donnes des options, tu peux camoufler un peu Herbert Jacquet, tu n'as pas à lui confier un rôle régulier à la ligne bleue. Il peut faire des présences une fois de temps en temps. Peut même... Je lance ça comme ça, mais tu sais, une présence ou deux à l'attaque sur un quatrième trio, je sais pas, là, tu sais, générer une étincelle, faire bouger les choses.
C'est plus difficile peut-être d'y aller pour une expérience comme ça, là, en plein cœur des séries, va jouer à l'aile gauche. Je crois que de le voir comme septième défenseur, ce serait plus logique. Mais tu sais, Guillaume a amené un bon point. Martin Saint-Louis a fort probablement carte blanche dans cette décision-là. Mais est-ce qu'il doit s'asseoir avec Kent Hughes, Jeff Gorton, avoir une petite discussion rapide? Si Hughes et Gorton ont déjà dans leur carton un rachat de contrat pour Patrick Laine, ben là, à ce moment-là, tu n'as aucune hésitation. Puis tu peux dire, Patrick, t'es remangé du popcorn, ça passerait le de presse. Il n'y a pas trop de stress. Mais si tu as encore le sentiment que tu peux travailler avec lui, le voir la saison prochaine, ça reste un choix délicat, mais je crois que, délicat ou pas, à cette période de l'année-là, le Canadien n'a pratiquement pas le choix de le retirer de sa formation.
Parce que Saint-Louis n'est quand même pas le type d'entraîneur qui abandonne sur ses joueurs. Tant que
Josh Anderson. C'est ça. Mais Josh Anderson ne marquait pas, avait pas de points l'an dernier.
Mais il essayait.
Mais il continuait quand même de travailler. Il continuait de prendre un tir... 1,5 mètre en haut du filet, mais tu sais, il lançait des rondelles vers le filet adverse.
La fois d'avant était 2,5 mètres, fait qu'il y avait une amélioration.
Il montrait un engagement. Puis hier, je me souviens aussi des propos du capitaine Nick Suzuki. La question était posée à Suzuki, est-ce que vous devenez une équipe plus vulnérable quand vous faites confiance à 3 trios plutôt que 4? Est-ce que ça devient plus difficile? Puis jamais Suzuki a voulu défendre Laine. La réponse était, je comprends l'entraîneur de raccourcir le banc. On y allait avec les joueurs qui pouvaient nous aider à gagner.
Ça, les joueurs sont pas aveugles non plus. Là.
Mais
ça,
non, exact.
C'est la même chose que nous.
Je pense que la discussion aussi va avoir lieu entre Saint-Louis, Suzuki, Brendan Gallagher, David Savard. Il est capable de prendre le pouls de son équipe. Puis si un peu tout le monde perçoit que Laine devient un boulet, bien, ils vont le sortir de l'équation.
Puis ce que j'aime dans cette possibilité-là, on a parlé de Demidov tantôt, de l'envoyer sur le jeu de puissance. Jusqu'à maintenant, Demidov, dans cette série-là, a été très, très discret, quelques bonnes touches, mais on a vu en fin de saison que c'est un joueur qui, plus il touche à la rondelle, plus il est menaçant, plus il prend confiance. Là, en ce moment, il ne touche pas à la rondelle vraiment. A été jumelé premier match avec justement Laine, ça complique un peu les choses parce que Laine n'est pas un joueur qui va lui chercher la rondelle, lui remettre la rondelle. Mais si Demidov peut avoir du temps de jeu en avantage numérique, peut prendre confiance là, ben je pense que ça pourrait se transposer dans son jeu à 5 contre 5 aussi, d'aller chercher cette confiance-là puis de se dire « je suis capable d'avoir un impact en série, même si c'est une grosse équipe de l'autre côté, même s'il frappe et tout ça. » Tu sais, faut qu'Ivan Demidov touche à la rondelle plus qu'il le fait en ce moment. Puis l'avantage numérique est peut-être la voie d'accès pour ça, parce que tu disais, tu sais, Martin Saint-Louis a pris des décisions, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu Demidov faire une présence avec le premier trio ou avoir un petit peu de temps de jeu sur la première vague du jeu de puissance. On garde les mêmes unités intactes, donc je pense que si on décide de laisser Laine sur la passerelle, ça pourrait être bénéfique pour Ivan Demidov dans cette série-là.
Et surtout, tu ne le lances pas dans la gueule du loup trop fort. L'avantage numérique est quand même protégé un peu. Puis tu le gardes sur un trio plus bas à 5 contre 5. C'est peut-être ça la solution aussi pour l'amener progressivement en série, même si progressivement, quand on va se parler la prochaine fois, peut-être ça va être terminé, les séries éliminatoires pour le tricolore là aussi. Là.
J'ai pas détesté non plus les présences de Demidov avec Jake Evans et Alex Newhook en troisième période. Si jamais tu joues, encore une fois, à 11 attaquants, ça te permet de brasser encore plus, surtout tes dernières unités. Je sais que Saint-Louis aime avoir un centre gaucher pour jouer avec Demidov, qui est gaucher, mais qui joue à l'aile droite, à 5 contre 5. Donc, Newhook est peut-être le choix logique. Mais Newhook, dans cette série-là, c'est difficile contre les Caps. Je ne sais pas, je serais curieux de voir Emil Heinemann avec Jake Evans, Ivan Demidov, ou retourner ce qu'on avait vu à son premier match, c'était Joel Armia qui jouait avec Newhook et Demidov. Ça avait été aussi le meilleur match d'Ivan Demidov. Mais là, on parlait d'un match contre les Blackhawks de Chicago, pas contre les Capitals de Washington.
Bonne différence. C'est là que tu vois que l'absence d'un deuxième vrai centre, ça fait mal à cette équipe-là, parce que peu importe ce que tu bouges...
Parce que le deuxième centre, c'est Christian Dvorak. Mais Christian Dvorak, tu lui demandes de jouer contre le trio de Strom,
ouais.
Ovechkin...
Tu comprends ce que je veux dire, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire.
C'est un
troisième trio, ça. C'est le deuxième trio parce qu'il n'y a pas de deuxième centre, c'est ça. Mais je veux dire, il manque ce deuxième centre-là qui fait que c'est un peu comme au bingo. Si t'as pas le free au milieu, là, le gratis au milieu, là, ça t'enlève une tonne de possibilités quand tu veux remodeler, quand tu vas aller chercher ta ligne idéale. Ben, c'est un peu ça aussi qui manque.
J'avais pas pensé à une telle analogie, mais non, c'est vrai. Mais Pierre-Luc Dubois comme deuxième centre, quand tu places les choses en balance, là, c'est un gros, gros avantage pour les Capitals.
Vous impressionne-tu dans cette série-là? Je trouve qu'il y a un peu, il y a du... il aime ça saler le nez un petit peu plus. Dans la saison, je veux dire, Pierre-Luc Dubois...
Moi, je le trouve bon.
Correct,
je trouve,
mais en série, je suis particulièrement impressionné par son niveau.
Puis après il sifflait, on l'a vu se chamailler un petit peu avec un Michael Matheson, même avec Samuel Montembeau. Dubois est fatigant, là. Il est capable de frapper, il patine bien, joue bien défensivement. Mm-hmm. C'est un bon trio avec Connor McMichael et Tom Wilson. Jusqu'à présent, là, Spencer Carberry doit être très content de ce qu'il voit.
Puisque avant le début de la série, j'ai posé une question à Spencer Carberry sur justement l'impact de Pierre-Luc Dubois. Puis son développement comme joueur, tu sais, pourquoi ça avait fonctionné à Washington alors que peut-être à ses escales, les escales qu'il a fait auparavant, ça n'avait pas nécessairement fonctionné. Mais il dit, tu sais, il s'est vraiment établi puis assumé dans son rôle de centre un peu plus défensif. Tu sais, les attentes envers Pierre-Luc Dubois, ça a souvent été des attentes offensives. Puis c'est un joueur qui doit produire, c'est un troisième show total. On s'attend à ce qu'il domine offensivement. A eu une très bonne saison offensive. C'est sa meilleure en carrière, je pense, 60-quelques points.
Oui, sa meilleure carrière. Ben, il nous l'avait dit quand il est venu sur le balai. Ah, t'étais pas là, c'est vrai, t'avais perdu ton Internet. C'est ça. Mais il nous l'a dit à moi et à JF à quel point il était fier de la qualité de son jeu défensif cette année, à quel point c'était ça qui avait été sa priorité par rapport au jeu offensif. Puis tu sais, c'est quoi l'expression? Si tu t'occupes du jeu défensif, l'offensive va venir éventuellement, ouais. Ça vient avec, mais c'est un peu ça, Pierre-Luc Dubois. Et là, tu rajoutes une couche de plus avec du jeu intense, du frottage d'oreilles en séries éliminatoires. Et là, soudainement, les, quand tu regardes cette équipe-là, les Capitals, tous les deux, tout le monde, je pense que personne ne les a dans leur carré d'as. On les a-tu, quelqu'un? Je pense pas. Non. Je trouve si Dubois ou
ben, pas,
on ne les a pas champions.
Non, mais
je ne suis pas très convaincu de ça. Tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation du côté des Capitals. Cela dit, la ligne de centre, la façon de jouer, c'est une équipe qui a des bonnes caractéristiques pour jouer en série.
Ouais, ben, mais... ce que je voulais dire, c'est en plus, si tu ramènes Protas, là, c'est une équipe qui a des éléments idéals pour les séries éliminatoires. Après ça, tout tombe en place. Logan Thompson fait du très bon travail jusqu'à présent. C'est un gamer aussi. C'est un gars qui n'a pas pu se prouver à Vegas. C'est deux. Je pense qu'il a joué quoi 3-4 matchs à Vegas en série. Ça avait super bien été avant de se blesser. S'il reste en santé, il ne faut pas oublier là, avant la troisième période hier, ses performances à Thompson. C'était moyen. Il y avait des fois où il était un peu déstabilisé. C'était pas... Mais en même temps, quand tu reçois 6-7 lancés dans une période seulement, 4 lancés,
il n'a pas vu beaucoup de volume.
C'est difficile de te mettre dans le bain. Puis là, quand il est embarqué dans le bain hier en troisième période, ben, on a vu qu'il était capable de nettoyer, de laver tout le monde.
Là. Ouais, mais j'ai encore des réserves par rapport à Thompson. Je pense pas que le Canadien a vraiment exploité les failles à la perfection. C'est pas une équipe qui met beaucoup de circulation devant le filet. C'est un gardien qui donne énormément de retours jusqu'à maintenant. C'est un gardien qui est souvent déporté. Donc, on l'a vu, je pense que c'était le bugalisateur de Nick Suzuki au premier match.
Ouais.
Thompson est allé nager là, presque dans le fond de la zone. Tu sais, moi, je suis pas convaincu. Je suis d'accord. Hier, en troisième période, a fait le travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à exploiter de ce côté-là, du côté du Canadien. Jusqu'à maintenant, on le fait pas parce que on en conviendra, c'est difficile de se rendre au filet quand tu affrontes une équipe aussi imposante, aussi rodée, aussi bien rodée que les Capitals. Mais je pense que s'il y a une faille à exploiter d'ici la fin de la série pour essayer au moins d'arracher quelques matchs aux Capitals, c'est vraiment Logan Thompson. Comme j'ai dit à Jean-François en route vers un débit de boisson après le match hier, j'ai l'impression que le barrage peut céder, puis quand il va céder, ça va y aller avec 3-4 buts, t'sais. Puis je suis assez confiant que le Canadien va réussir à aller chercher le troisième match, premier match devant ses partisans à Montréal. On va trouver la façon d'aller chercher au moins un match. Le troisième match, c'est une belle occasion. Puis j'ai l'impression que Thompson pourrait être le genre de gardien qui serait peut-être affecté par la foule. Par...
Je ne sais pas. Honnêtement, moi, quand il était à Vegas, je l'aimais Thompson. Moi, le gars, je veux dire... Ce qui me fait dire que c'est un gamer, tout, de où il arrive. Je dire, ce gars-là, il était universitaire canadien il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'aimais à Vegas. Tout ce qui manquait à Vegas, c'est la santé. Parce que c'est peut-être pas Adam Hill qui a ramené les Golden Knights à la conquête de la Coupe Stanley. C'était le filet à Logan Thompson à la base, avant de se blesser. Je dis, c'est uniquement pour ça qu'il n'a pas pu se prouver. Il est échangé par Vegas contre deuxième et troisième choix, si je ne me trompe pas. T'sais, on n'a pas payé la lune pour aller le chercher. Mais ce gars-là, en tout cas, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de sa part cette année. Là, il a été blessé en fin de saison, ce qui est à 100%, on verra bien aussi. Mais je ne suis pas prêt à... Tu sais, tu dis la faille, là. Moi, je ne suis pas prêt à dire que le barrage pourrait casser. C'est peut-être une petite digue, là.
On s'en reparlera, j'ai ce feeling-là.
Il est rapide. T'sais, Thompson peut être rapide dans ses déplacements. Il a de bons réflexes, mais il donne de gros retours.
Ouais.
Il n'est pas toujours en parfait contrôle. Hier, Jake Evans a aidé grandement la cause de Logan Thompson en frappant le poteau avec un filet ouvert.
On parlait de but qui aurait pu changer l'allure de la série au complet.
Ça, c'en est
un. Ce
pile-là. L'autre, il y a une échappée pour Josh Anderson. Josh en échappée a rarement été...
Mais je pense qu'il l'a mis sur la cible.
En échappée. Oui, il l'a mis sur la cible. Ça, c'était déjà ça.
Mais il ne faut pas oublier aussi, tout de suite après le premier but du Canadien, le Canadien remporte la mise au jeu. Fait une descente à 2 contre 1 dès la mise au jeu. Logan Thompson ferme la porte sur 2 contre 1. Ouais. C'était Jake Evans et Emil Lineman. Ça aurait pu faire 2-0 en l'espace de 15 secondes.
Ouais.
Un mur.
Ça a tourné. Après 3 minutes plus tard, c'était 2-1 Washington.
C'est ça.
Fait que je suis d'accord. Il était excellent hier, mais...
Il y a un manque d'opportunité. Ouais, je comprends.
Rapidement, les gars, là, tantôt, on parlait de faille. Guillaume a parlé du barrage. Il faut que tu réussisses à te rendre au barrage. C'est pas facile contre cette équipe-là. Mais il y a peut-être un duo de défenseurs, Alexeyev et Trevor Van Riemersdyk, deux gros bonhommes, mais ils sont lents.
Ouais.
Ça a passé un petit peu sous silence. Guillaume a écrit à son sujet, Mais la blessure de Martin Fehervari. Fehervari.
Oui.
Charivari.
Exact. Charivari, pour faire un clin d'œil à Guillaume Lefrançois, qui en manque pas une dans les jeux de mots douteux.
Je pensais d'aller dire Guy Mongrain. Hein, qui,
Guy Mongrain, Guillaume Lefrançois, des fois, c'est pratiquement le même corps.
C'est la moustache qui est différente.
Fehervari, c'était quand même le défenseur qui menait les Caps pour le temps de jeu à l'infériorité numérique. Mm-hmm. Lock des tirs. C'est le défenseur défensif qui fait un petit peu tout de bien sans ressortir du lot. Puis Alexeyev, cette année, je crois qu'en saison régulière, c'est 8 matchs seulement. Ouais. Et le reste du temps, c'est sur la passerelle de presse. Là. C'est super long. J'ai rarement vu un joueur qui passe la saison en entier avec le grand club, sauf quelques matchs pour conditionnement avec les Bears d'Hershey, mais qui ne joue tout simplement pas.
C'est une situation à la Michael Pezzetta.
Oui, un peu. Mais sauf que là, tu sais, Alexeyev, c'est un choix de première ronde, tandis que Pezzetta, accroche-toi, là, profite de la chance qui t'est offerte. Tandis que ben, ça explique aussi pourquoi un choix de première ronde, tu ne veux pas le faire passer au balotage. Là, d'habitude,
non. Puis si,
ça se lance dessus. Là.
Si jamais les Caps avait le bonheur de retrouver Protas dans cette série-là. Hier, on attendait l'ascenseur en même temps qu'Alexey Protas. Si on trouve déjà les Capitals gros, M. Protas, quand il embarque dans l'ascenseur, on lui a gentiment laissé la place.
Vous étiez on au a 8e, inséré, vous
on
étiez
a
8e,
inséré
vous
un tout petit. Ouais, exact. On a inséré un tout petit. Guillaume Lefrançois était le dernier à rentrer. On avait l'option de rentrer un autre petit journaliste, Stéphane Waino. Mais Wino est un petit peu plus lourd sur la balance. On le gardait à l'extérieur. Donc, il y a seulement Protas qui a eu le bonheur de rentrer dans cet ascenseur-là.
Il est gros, mais
vraiment gros en personne.
Puis, il n'y avait pas juste Protas, il y avait tous les joueurs des Capitals qui jouaient pas. Puis, le collègue Dave Lévesque du journal a dit les médias devraient avoir priorité. Là. Il reste 3 minutes au match, il faut descendre. Là, j'ai dit, tu peux leur demander de te laisser passer.
Il y avait Dylan McCormack aussi, qui n'est pas un petit bonhomme. Là.
Je me mêle pas de ça. Donc, on a attendu le deuxième ascenseur, dans le fond. C'est ce qu'il faut retenir.
Et on a vu le but dans un filet désert, dans un corridor du sous-sol de l'aréna. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vit nos meilleures vies.
Juste avant de parler du match de vendredi, on a abordé le sujet tantôt de Jack High. Canadien se fait quand même brasser un peu. Puis il y en a beaucoup qui disent amenez Jack High, il va intimider l'autre équipe, il va envoyer un message. Vous y croyez cette pensée-là ou vous y croyez pas dans le hockey de série de 2025? Est-ce que le shérif est réellement assez un shérif pour calmer juste avec sa présence l'équipe adverse et en jouant 7 minutes, 8 minutes par match, il est 7e défenseur?
Le shérif, là, il a gardé ses menottes dans ses poches depuis longtemps. Là. Il a joué un match sur 12. Là, tu lui demanderais de revenir au jeu. C'est possible qu'il va revenir au jeu, mais Arber Jacker ne viendra pas non plus avec la cape du sauveur, puis il va tout changer dans cette série-là. Je crois pas. Martin Saint-Louis le disait, puis Martin Saint-Louis, d'ailleurs, commençait à devenir facilement irrité. Il était tanné qu'on tourne autour du pot avec des questions concernant Jack Eye. Mais il disait, Tom Wilson ne changera pas sa façon de jouer, même si Arber Jack Eye est sur la glace ou sur le banc du CH, plutôt que dans les gradins. Tom Wilson va rester Tom Wilson, va frapper, il n'aura pas peur, puis il ne reculera pas. Écoute, mais je pense qu'on est rendu à ces 2-0 Washington. Là, est-ce que tu as plus à gagner de l'essayer qu'à perdre? Je pense que ça penche un petit peu plus que tu as davantage à gagner qu'à perdre. Je serais pas surpris de le voir en une forme, mais il va pas transformer la série de A à Z. Là.
Tout va dépendre des discussions que Saint-Louis va avoir avec son groupe de leadership.
Probablement.
Par rapport à l'aîné. Par rapport à ce qu'on fait avec l'aîné.
Ah, c'est ça. Je pense que la situation de l'aîné ouvre la porte à ça, mais moi, je n'étais pas de l'école de ceux qui pensent qu'il aurait fallu laisser Struble de côté pour faire entrer Jack Hayes. Je me disais, ça donne quoi? Ça changera absolument rien. Mais là, l'aîné ne t'apporte rien. Tu changes un peu la formule. Je pense que ça, c'est ce qui ouvre la porte.
Ouais, c'est sa porte d'entrée. Là.
Je pense pas que j'aurais pas fait un changement là, un pour un Struble pour un Jack Eye. Je pense pas que les Capitals vont frémir en voyant le nom de Jack Hayes sur la formation. Là, il y a plusieurs gros bonhommes dans cette équipe-là. Donc, oui. Jack Hayes, s'il s'occupe d'un d'entre eux, ben, les autres vont quand même être sur la glace pendant que lui va purger 5 minutes au banc des punitions. C'est... Je comprends l'aspect, il est là, la présence, mais ça peut avoir un effet, mais...
C'est peut-être juste pour pas perdre Josh Anderson qui doit s'acquitter de cette tâche-là d'après-sifflet. Là-dessus, je peux comprendre. Si t'es pour en envoyer deux en même temps au banc de punition, je préfère que ce soit Jack Eye que Anderson.
Mais là-dessus... en même temps, là, ça frappe depuis le début de la série, comme chacune des séries, mais il y a eu combien de batailles, de bagarres entre les Canadiens et les Capitals?
Ah, il y en a plus. C'est pour ça que je disais dans l'hockey de 2025.
On est à zéro.
C'est ça. Puis même dans les autres séries, là,
Faut que tu t'assures aussi.
Je pense que ça a été assez rare.
Si Arber Jacquet revient au jeu, il va falloir que Jacquet résiste à la tentation de vouloir aller en pincer un à tout prix puis se sortir du jeu. Jacquet aura besoin...
C'est comme ça qu'il jouait au début.
Oui, en début de saison. Puis même en fin d'année aussi, je regardais son temps de jeu. Là, son dernier match, c'est 9 minutes contre les Prédateurs. Avant ça, c'est 3 minutes 50 contre les Hurricanes. Puis ce soir-là, il avait justement coûté des buts par de mauvaises décisions défensives. Puis Jack Eye, je l'ai souvent dit, mais dans ses batailles à un contre un pour récupérer des rondelles, même s'il est grand, il est gros, c'est pas toujours lui qui ressort avec la rondelle. Donc, on verra, mais je me répète, je partage l'avis de Guillaume, le tien aussi, Nick. Je crois que le test Jack Eye peut être intéressant pour le troisième match.
Oui. Bon, la série s'en vient à Montréal. Écoute, il y en a à Washington qui savent c'est quoi l'ambiance de série à Montréal, c'est-à-dire les Québécois, les Beauvilliers, Dubois. Et depuis ce matin, Brendan Duhem, tu nous as appris ça, Guillaume, je lisais ton texte. Brendan Duhem, qui écoute, la moitié de sa famille, c'est un demi-Québécois, si je peux dire, là.
Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que tu n'avais pas lu le texte de notre collègue JF.
Je ne lis pas tout ce que vous faites.
À l'époque, mais c'est à l'époque où il était au Journal de Montréal, fait que c'est un peu normal.
Ah, laisse-moi une chance. Hein?
Tu ne consultes pas ce site-là, mais...
Et c'était à l'époque où il jouait pour le Wild du Minnesota.
OK, tu remontes. C'est ça.
Exact. Il avait fait un papier justement pour raconter son histoire, le fait que sa mère est québécoise, Martine Lebel.
Oui.
Son père...
Trevor Duhem.
Trevor Duhem a joué dans la GMQ pendant 3 ou 4 saisons.
Il a joué avec Manon Réaume du côté de Trois-Rivières. J'ai regardé ça tantôt.
Ouais. Donc, tu sais, pour lui, il dit j'ai de la famille qui en Montérégie. Il vient passer du temps chaque été pour les vacances, pour voir la famille. Là, cette année, ben, ça va être... un petit voyage printanier de son côté. Elle va avoir quelques membres de sa famille dans les gradins du Centre Bell. Puis il dit, tu sais, ça va être complètement fou, l'ambiance au Centre Bell. Tu sais, les joueurs à travers la Ligue ont vu là, les clips du Centre Bell en fin de saison, puis à quel point la foule est derrière son équipe. Fait qu'il dit, tu sais, même si on sait qu'ils sont pas derrière nous, ça va être une ambiance vraiment, vraiment folle, puis ça va être le fun d'évoluer dans cet environnement-là. Donc, pour les joueurs des Capitals aussi, ça va être spécial. Beauvilliers, Dubois aussi sont très excités à l'idée de venir à Montréal, de jouer du hockey de série, là, surtout dans la situation où les Capitals sont en ce moment. Là, 2-0,
c'était 0-2, ce serait moins le fun un peu de se mettre à Montréal. Là.
Exact, mais j'ai hâte de voir l'impact de l'énergie de la foule. Tu sais, Martin Saint-Louis a ramené le fameux jus hier soir, a dit « la foule va nous donner du jus ». J'ai hâte de voir ça va être quoi l'impact, l'effet. Est-ce qu'on va le remarquer dès le début du match? Est-ce que le Canadien va marquer un but rapide en partant puis que là, ça va mettre le party au Centre Bell? Ça reste à voir, mais j'ai bien hâte de voir ça parce que pour moi aussi, ça va être... j'avais vécu 2017, les quelques matchs contre les Rangers de New York sur la passerelle, mais ça va être... je pense que ça va être une petite coche de plus demain. Là. J'ai l'impression que les gens ont faim et ont soif de hockey de série à Montréal. Là.
Plus grosse coche que pendant la pandémie, là, ce souci.
Oh, ça, oui. ça, on l'a comme oublié. On en parlait hier. Puis on se disait, tu sais, c'est comme... Oui, on l'a vécu, mais je pense que le party était plus le fun à l'extérieur que dedans, qu'à l'intérieur du Centre Bell.
Oui, exactement. Vos attentes pour ce match-là, vendredi?
Moi, je crois que le CH peut rebondir, mais je reste sur ma prédiction de Washington en 5. Probablement une victoire pour les deux prochains matchs à Montréal, Mais je continue de croire que le déséquilibre reste grand entre les Capitals et le CH.
Guillaume?
Ouais, moi je vois l'équipe gagner le troisième. Après ça, de quelle façon ça va se faire? Est-ce que ça va donner, tu sais, si c'est une victoire décisive, un 2-3 buts d'écart, ben dans le quatrième, ça pourrait avoir un impact. Moi, j'ai dit Capitals en 6, donc pourquoi pas ramener les choses, mettre un peu de piquant dans cette série-là, ramener ça à 2-2. Je peux pas dire que j'y crois à 100%, mais je crois au moins à une victoire du côté de Montréal. Puis après ça, ben on verra bien au match 5 à Washington.
Mais c'est une équipe qui a quand même pas abandonné cette saison. Chaque fois qu'on lit, on croyait que c'était pour dérailler. Ouais, à domicile.
La fiche à domicile, les deux derniers mois, c'était assez impressionnant aussi. Fait que je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais
c'était bon.
C'était du bon 85-90% de victoire à domicile. Donc, ça va être intéressant de voir ça.
Non, ouais. Puis, écoutez, de mon côté, je pense que je me rends. Il va une des deux. Mais probablement une des deux, puis ensuite une à Washington, mais ça va être...
Si le Canadien gagne match, je pense qu'on pourrait peut-être... Puis il y a toujours la carte Protas là, du côté des Capitals. Il faudrait que le Canadien gagne au moins un match avant son retour. Est-ce que son retour, ça va être demain? Est-ce que son retour, ça va être au match numéro 4, numéro 5? On ne le sait pas, mais s'il ne joue pas demain et que le Canadien l'emporte, ben on va peut-être peser sur l'accélérateur du côté des Capitals puis envoyer le gros Protas dans la formation parce qu'il est non seulement il est gros, mais c'est le troisième meilleur pointeur de l'équipe en saison régulière. Donc, ça pourrait faire mal là, de le retour d'Alexis Protas dans cette série-là.
Ouais, et je pense que les Canadiens doivent avoir un bon départ demain. Si tu donnes deux buts rapidement, déjà ouais, que la foule sera peut-être pas aussi hot qu'elle aurait pu l'être parce que c'est 2-0 dans la série puis tout ça. Si en plus, tu t'en fais marquer 2-3 rapidement, si Samuel Montembeau n'est pas excellent comme il l'a été depuis le début de la série, je pense que ça va être difficile. Donc,
les gars, l'affiche du CH à Montréal depuis la pause des quatre nations, 12 matchs, 10 victoires, aucun revers en temps réglementaire, 2 défaites en prolongation, 46 buts pour, 25 buts contre. Donc, CH à Montréal en fin de saison, c'était une forteresse. Mais j'ai hâte de voir. Autant on peut parler de l'énergie du Centre Bell, ça reste aussi un amphithéâtre qui motive l'équipe adverse. Mm-hmm. Oui. Si les Caps peuvent connaître un bon début de match, pour Ovechkin, les joueurs à Montréal, c'est du bonbon. Les Dylan Strome, les Tom Wilson, John Carlson. L'ambiance de carnaval, comme écrivait Guillaume dernièrement à Montréal, peut aussi donner des frissons aux joueurs des Capitals de Washington.
On va voir ça. Donc, demain, messieurs, vous allez être là. Les gens vont pouvoir... vous allez pouvoir lire les collègues sur lnh.com. Vous suivez tout ça. Là. De toute façon, on se met en mode série locale. Fait comme on disait, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Donc, on va avoir du plaisir.
On poursuit le marathon.
Et oui, exactement. Et pour toutes les autres séries, mais comme je disais, on va se parler lundi. Mais si on va revenir sur cette fin de semaine-là du tricolore, on va essayer de faire un peu le tour aussi. Je sais que vous êtes tellement comme absorbé dans la série canadienne Washington que c'est un peu difficile des fois à regarder ce qui se passe ailleurs, mais on va pouvoir en parler lundi.
On voit souvent des pans des autres matchs au bar après les matchs. Fait que c'est très bref, mais on regarde un peu ce qui se fait ailleurs. Ouais.
On passe quand même beaucoup de temps ensemble. Il y a quelques heures, on mangeait un délicieux pad thai tard le soir dans un bar de...
Tôt le matin, dans le quartier chinois de Washington.
Oui, oui, oui. Il y a parfois de mauvaises décisions qui vont se prendre quand il est tard.
C'est un gros début de série. Là. on a hâte de se retrouver un peu seul, chacun de notre côté.
Oui. C'est pas un bon match, vous deux, ensemble, sur la route. Merci d'avoir été là aujourd'hui, les boys, puis on se reparle lundi.
À bientôt.
Ça fait plaisir.
Au revoir, chers auditeurs. Merci beaucoup aussi d'avoir été sur le balado aujourd'hui. Comme je vous dis, les textes des gars, allez lire ça sur le site de lnh.com avec tout le reste. Et prochain balado, écoutez, comme je vous dis, lundi, ça devrait être lundi, à moins que la Terre s'écroule. Donc, ça se dit-tu, ça, la Terre s'écroule? Ça se dit pas, hein, les boys? La Terre. Arrête de tourner, voyage. Je vais y aller avec ça. Donc, abonnez-vous, suivez-nous sur les plateformes de diffusion, peu importe. où vous écoutez vos balados pour ne rien manquer. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.